Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice, comme chaque semaine, je suis Christophe Mallet et je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Et un Europa Voice cette semaine où on aura deux sujets bien distincts. On va parler de taxation en France et un gros débat autour de la taxe Zucman. Et on va parler également d'un vieil ami, une Madeleine de Proust pour nous, le Brexit et les retombées du Brexit, à savoir peut-être la prolévalence de quelqu'un comme Nigel Farage en Grande-Bretagne. Mais tout d'abord, Nathanaël, parlons peu mais parlons bien de cette taxe Zucman et de taxation en France. Ça focalise beaucoup les débats en ce moment au sein du Parlement.
Oui, tout à fait, Christophe. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre la taxe Zucman et d'en parler. Mais dans le cadre des débats budgétaires des aspérités et des différences qu'il y a entre les partis au pouvoir en ce moment. Parce que pour les uns, cette taxe, évidemment, va beaucoup trop loin, alors que pour les autres, elle ne va pas assez loin. Et donc, on en est à découvrir des versions, édulcorées de cette taxe Zucman, notamment par le Parti socialiste. Mais avant même de parler de ça... ce qui est intéressant avec cette taxe Zucman en termes de narratif politique, c'est qu'on a l'impression que c'est révolutionnaire, qu'on en parle comme ça tout d'un coup, alors qu'en fait, l'idée, Christophe, est assez simple.
Mm-hmm. Expliquez-nous un petit peu les détails justement de cette taxe Zucman, parce qu'on parle d'une taxation à un certain pourcentage pour les très, 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 très riches. Ce n'est pas juste les très riches. Hein.
Non, c'est effectivement les ultra-riches. Cette taxe Zucman, elle s'adresse à un peu plus de 1 000 foyers fiscaux et elle correspond à une taxation de 2%. En fait, c'est un impôt, hein, mais qui cible, comme vous l'avez dit, les ultra-riches. Le patrimoine, pour vous donner une idée, il est supérieur à 100 millions.
Ouais, 100 millions d'euros.
100 millions d'euros, exactement. Donc, on est vraiment sur le haut du panier. Pourquoi, alors, en fait, il y a cette taxation pour les ultra riches, pour le haut du panier, parce qu'on s'est rendu compte en fait que par rapport à la progressivité de l'impôt et par rapport au pourcentage que ces ultra riches sont taxés, en fait ils le sont beaucoup moins que les un peu moins ultra riches. Juste pour vous donner deux chiffres,
de 23% pour les ultra riches contre 47 à 51% pour le foyer normal.
Alors on parle pour le foyer normal, mais même par rapport aux autres très riches. Un foyer normal, effectivement, on est 45-50%. Même les ultra-riches, ceux qui sont un petit peu en dessous de ces quelques exceptions-là, sont aussi taxés à 46%. Mais il se trouve que l'un peu plus du millier de foyers comme ça, de ultra-ultra-riches, n'est taxé qu'à 26%. Et donc, le différentiel entre ces 26 et ces 46% rapporterait entre 10 et 15 milliards à l'État. Et donc, c'est toute l'idée, en fait, de cette taxe Zucman, c'est que la progressivité de l'impôt fonctionne. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte, enfin, en tout cas, Zucman, l'économiste, s'est rendu compte que si ces foyers et leur patrimoine a progressé de manière exponentielle pendant ces 30 dernières années, leur contribution aux politiques publiques, enfin, leur imposition, elle, n'a pas du tout progressé dans les mêmes termes, dans les mêmes proportions. Et donc, c'est toute la philosophie derrière cette taxe Zucman et cette taxation, encore une fois, du patrimoine au-dessus des 100 millions d'euros.
Pourquoi ça coince? Parce que là, vous me dites ça sur le papier, on pourrait se dire, OK, ça semble relativement normal. Et j'allais dire, pourquoi ça coince et pourquoi, par exemple, le Parti socialiste a dû un petit peu édulcorer sa demande et d'y aller avec un Zucman light, on va dire, où on augmentait le pourcentage, donc 3%, mais au-dessus de 10 millions. Pourquoi ça coince donc, et pourquoi il a fallu essayer d'adapter ça?
Alors, pour ça, il faut peut-être rentrer un petit peu plus, Christophe, dans le détail pour nos auditeurs d'SBS et d'Europa Voice, de la taxe Zucman et de la manière, de son assiette, de quoi elle est composée. En fait, il y a un aspect qui, ne coince pas et un aspect qui coince. L'aspect qui ne coince pas, c'est la taxation sur les biens immobiliers. Donc, ça va être, par exemple, la maison, les voitures, l'épargne, les œuvres d'art. Ça, il y a une espèce de consensus. Ce qui coince, en fait, c'est la taxation sur ce qu'on appelle les biens professionnels, par exemple les actions que vous avez dans des entreprises. Et c'est cet aspect en fait qui est très idéologique qui coince. Pourquoi? Parce que ceux qui sont opposés à cette taxe Zuckman disent tout simplement que ces biens professionnels, les actions encore une fois par exemple, mais ça peut être aussi les terres ou les machines, et ben en fait les personnes qui les ont vont tout simplement les revendre à l'étranger ou vont eux-mêmes aller s'installer à l'étranger. Et c'est d'ailleurs, malgré elle, hein, l'entreprise Mistral d'intelligence artificielle.
J'allais y venir,
exactement, est un peu prise dans ce tourment parce que la peur, en fait, qu'ont les principales organisations et partis politiques, le MEDEF, mais aussi la droite, les socialistes d'une certaine façon, c'est que tout simplement ces pépites, ces licornes françaises, eh ben, elles arrêtent et de produire en France et de payer même des impôts en France et vendent leurs actions, leurs parts, parce que Mistral, c'est un bon exemple, Christophe, l'entreprise ne fait pas de bénéfices, mais elle est valorisée à 11 milliards d'euros. Et donc, en fait, tout simplement, pour échapper à ça, il serait aussi simple que les fondateurs de Mistral soit vendent leurs actions à l'étranger ou soit tout simplement s'installe à l'étranger. Alors, pour contrer un peu ça, il y a une obligation dans la taxe Zuckman de vendre à l'État, de vendre à la France. Mais vous voyez, en fait, l'opposition, elle est là. Elle est sur cette partie qui concerne les biens professionnels parce qu'encore une fois, les opposants à la taxe Zuckman disent que c'est encore une fois taxer, imposer ceux qui créent de la richesse, qui créent des emplois, etc. Donc, c'est véritablement une opposition, pas tellement sur le chiffre, parce que vous avez raison, dans les faits, ça ne va pas changer grand-chose si on parle simplement du patrimoine immobilier, mais c'est sur la création d'emplois et la création de richesses et de production en France que là, ça coince entre les opposants et les partisans de cette taxe Zuckman.
Est-ce que ça peut être le sujet qui, au final, pourra être ce qui ferait peut-être potentiellement tomber le gouvernement Lecornu 2 ?
Le Parti Socialiste, en fait, a besoin de cette version allégée, j'allais dire, pour que le bloc central, la majorité, puisse l'accepter. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette taxe Zuckman, c'est peut-être moins le gouvernement et Lecornu 2 qui va tomber que les socialistes qui ne seront pas capables d'avoir un marqueur très fort pour cette fin de mandat et peut-être l'utiliser comme une relance en vue des présidentielles de 2027. Donc, j'aurais tendance à dire, Christophe, pour nos éditeurs d'Europa Voice et de SBS, que, en fait, personne, et du côté de Renaissance et du côté des socialistes, n'a intérêt, au final, à ce que ça n'aboutisse pas à quelque chose. Parce que pour la majorité, évidemment, l'idée n'est pas, l'idée d'avoir une certaine stabilité hein, et de pas changer, encore une fois, de gouvernement ou de pas avoir de motion de censure et de passer le budget, ça, c'est évident. On en a parlé dans les précédent numéro d'Europa Voice. Par contre, encore une fois, pour le Parti Socialiste, la question est celle d'exister. Et cette taxe Zuckman, et la version notamment allégée de cette taxe Zuckman, est une manière pour le Parti Socialiste, sur un marqueur de gauche, sur une thématique aussi de gauche, qui est celle de l'impôt, et bien de pouvoir exister et de créer, j'allais dire, un narratif qui les mettrait d'une certaine façon en selle en vue des prochaines échéances électorales.
Absolument. Voilà. J'espère que vous avez un petit peu plus compris les enjeux de cet acte Zuckman dans notre première partie d'Europa Voice. On fait une courte pause et on revient dans quelques instants. On va parler, bien entendu, de la Grande-Bretagne, notre Madeleine de Proust. Deuxième partie d'Europa Voice avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, on va parler du Brexit. On va en revenir dessus, même si le Brexit est loin derrière nous. La Grande-Bretagne n'en finit pas de se défaire de ce Brexit. Et là, il semblerait que le parti de Nigel Farage, qui était le grand artisan du Brexit, son parti est en tête dans tous les sondages. Si aujourd'hui, il y avait une élection en Grande-Bretagne, Nigel Farage serait très vraisemblablement Premier ministre avec une énorme majorité au Parlement. Et ça, c'est un vrai changement.
Nigel Farage, Christophe, et son parti Reform UK, vous l'avez très bien dit, si aujourd'hui, il y a une élection en Grande-Bretagne, il arrive largement devant les partis historiques que sont les travaillistes et les conservateurs. Les derniers sondages de ce mois-ci, en fait, le créditent de 31% des intentions de vote et seulement 21% pour les travaillistes et 18% pour les conservateurs. Donc, ce serait une victoire éclatante pour un des j'allais dire, un des idéologues, un des promoteurs du Brexit, et pour surtout celui qui maintenant a une politique, j'allais dire, de plus en plus affirmée et claire avec son parti Reform UK.
Quand on parle de chiffres, pour bien comprendre, aujourd'hui, Reform UK a, je crois, c'est 6 ou 7 députés. S'il y avait des élections demain, il se retrouverait, vous dites, à 31%, mais en termes de chiffres, on parle d'un nombre incroyable de ce qui pourrait être les députés par rapport, partant de 6, j'ai lu quelque chose autour de 300 députés.
Oui, on arriverait quasiment, Christophe, à une majorité, j'allais dire, franche pour Nigel Farage. C'est toujours dur, de transformer les intentions de vote en nombre de sièges, mais ce qui est évident, c'est que il passerait d'un parti, j'allais dire, résiduel de niche à un pilier du système politique britannique, et ça, ce serait vraiment un exploit pour celui qui, encore une fois, a été un des promoteurs du Brexit, peut-être celui qui a le plus fait la promotion de ce Brexit, à la fois, j'allais dire, en Grande-Bretagne, mais aussi dans les institutions européennes. C'est ça aussi, Christophe, qui fait que je crois qu'il a ce succès-là en ce moment, Nigel Farage. C'est que ceux qui veulent voter pour lui savent que, j'allais dire, il connaît l'ennemi de l'intérieur, maintenant de l'extérieur, mais il le connaît aussi de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est capable de parler cette langue-là, il est capable de faire face à une von der Leyen qui est de plus en plus affaiblie. Il a été au Parlement, dans les institutions européennes. Donc, c'est véritablement quelqu'un, j'allais dire, qui représente le meilleur des deux mondes pour ceux qui veulent une Grande-Bretagne indépendante, en dehors des grands partis, et aussi qui veulent faire face, ou en tout cas avoir une relation beaucoup plus de réelle politique avec l'Union européenne. Et c'est ça qui fait son succès, et c'est ça qui fait, encore une fois, hein, Christophe, il n'y a pas de boule de cristal Europa Voice, il n'y a aussi pas de boule de cristal chez les instituts de sondage, mais en tout cas, les résultats et en tout cas les tendances sont très claires quant à son succès probable aux prochaines élections.
Mais ce qui est très intéressant dedans, c'est que si on approfondit un peu dans les sondages, et qu'on met deux sondages en corrélation, il y a aussi un sentiment en Grande-Bretagne que le Brexit est un échec. Et aujourd'hui, s'il y avait un référendum, c'est pas sûr que le Brexit gagnerait. Et pourtant, dans les autres intentions de vote au niveau des élections parlementaires, c'est le parti du Brexit qui gagnerait cette élection. Donc, est-ce que ça veut aussi dire que le parti gouvernemental a du mal à se connecter sur un sujet local, journalier et le coût de la vie et ce qui effraie un peu les Britanniques et le Brexit?
Moi, je crois surtout que, Christophe, que Nigel Farage, il a un peu ce côté, Trumpien. Donald Trump, ouais, mais en termes de popularité politique. C'est-à-dire que c'est la personne, à un moment de l'histoire, qu'on a envie d'entendre pour une population donnée. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. C'est-à-dire que les Américains avaient besoin d'entendre Trump, malgré déjà à l'époque, hein, avant de se faire élire, toutes les casseroles qu'il avait et tous les scandales qu'il avait. Et en fait, pour Nigel Farage, c'est la même chose. Évidemment, c'est celui, c'est le partisan, le promoteur du Brexit. Et en même temps, effectivement, les Britanniques se rendent compte des conséquences du Brexit. Mais qui de mieux placé que celui connaît les relations, la manière dont l'Union européenne fonctionne et qui, de manière proactive, a voulu sortir la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, de l'Union européenne, qui de mieux que celui-là pour maintenant aller gérer une situation que, en fait, le Premier ministre actuel, Keir Starmer, ne gère absolument pas. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il profite d'un contexte politique local qui est vraiment très défavorable à Keir Starmer, et ce qui le prouve d'ailleurs le plus, c'est que Keir Starmer est obligé de s'aligner sur des positions qui sont plutôt de droite et d'extrême droite pour éteindre un petit peu, l'incendie et ce qui se passe avec Nigel Farage, par exemple, sur la question du regroupement familial. Il a commencé à prendre des positions qui sont qu'on n'attendrait pas d'un gouvernement travailliste, et c'est le cas sur plein d'autres sujets. Donc, en fait, aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est presque Keir Starmer, alors que c'est celui-ci qui est au pouvoir, qui court après Nigel Farage, et non l'inverse.
Ouais, tout à fait. Ouais. C'est la donne, elle est là. Alors, les élections en Grande-Bretagne sont prévues dans 3 ou 4 ans. Hein. C'est pas tout de suite. Donc, énormément de choses peuvent changer. C'est vrai qu'aujourd'hui, une chose qui focalise les Britanniques, c'est la crise migratoire. et la relation de cette crise migratoire avec l'Europe, notamment la France. Là, c'est très tendu, ce côté-là. Et là, vous le dites, Keir Starmer n'a pas forcément toutes les réponses que les Britanniques attendent.
Non, il n'a pas toutes les réponses. Il y a eu de nombreuses manifestations anti-migrantes, de ce qu'on a appelé dans les médias les patriotes britanniques auprès des centres de migrants. Il y a eu l'affaire d'Epping en juillet dernier avec une histoire horrible mettant justement en jeu un migrant. Et donc, depuis ce moment-là, il y a une espèce, j'allais dire, il y a presque une gilet jaunisation d'une certaine partie de l'opinion britannique sur cette question des migrants. C'est-à-dire que tant qu'ils n'auront pas gain de cause ou tant qu'ils n'obtiendront pas des choses, ils continueront à être présents sur les ronds-points, sur les routes, à mettre des drapeaux nationaux pour demander justement des réformes sur ces questions migratoires, des remigrations, des réformes sur les questions du droit d'asile et faire le lien, parce que il n'y a pas l'épisode d'Epping, c'est anecdotique en termes, mais c'est un déclencheur, c'est un marqueur extrêmement important que Keir Starmer doit écouter s'il veut conserver son électorat, ou en tout cas s'il veut se faire élire aux prochaines élections. Et donc il y a Nigel Farage, d'une certaine façon, il vient aussi un petit peu, c'est le meilleur homme, le mieux placé pour répondre à ces questions que se pose une partie des Britanniques sur ces questions migratoires, du droit d'asile, ces questions sociales aussi, où ils ont l'impression finalement de plus pouvoir faire les deux choses, de plus pouvoir être un pays d'accueil, et en même temps de ne plus pouvoir les questions du coût de la vie, de la misère sociale, etc., qui continuent d'augmenter. Et puis, vous l'avez mentionné, Christophe, vous l'avez rappelé, dans un contexte aussi d'une relation avec l'Union européenne qui ne, facilite pas les transits. C'est-à-dire qu'une fois que les migrants arrivent au Royaume-Uni, ils arrivent au Royaume-Uni. Ils ne peuvent plus transiter ailleurs. Donc ça crispe aussi, d'une certaine façon, l'électorat britannique qui... voit affluer des migrants qui maintenant doivent rester dans le pays. Et donc c'est là où Nigel Farage est très fort, c'est que lui, il arrive à mettre le Brexit comme presque un élément central pour répondre à ces questions-là, alors que même, et vous l'avez dit en début d'interview, il y a sûrement beaucoup moins d'opinions favorables au Brexit qu'il n'y a d'opinions favorables à Nigel Farage. Et donc c'est très ambivalent, puisque en gros, vous portez énormément de crédit à la personne qui a porté un sujet pour lequel, en l'occurrence, vous êtes beaucoup plus mitigé. Et donc, c'est un peu sur ce terrain-là que Nigel Farage va devoir composer et voir s'il est capable d'être cette réponse-là, parce que 4 ans, c'est encore long. Il y a des sondages actuellement, mais c'est encore long avant une élection.
Et bon, après, les Anglais, on les connaît pour leurs ambivalences, donc ça change pas, on n'est pas vraiment surpris, c'est aussi pour ça qu'on les aime comme ils sont.
Voilà, est-ce que vous finirez plus cette interview par parler de la perfide Albion, là, Christophe, j'ai l'impression.
Non, on va pas se lancer là-dessus, il n'y a pas de problème.
On va pas se lancer là-dessus.
Merci Nathanaël, et affaire à suivre, notamment dans un des prochains épisodes d'Europa Voice. Merci.
Merci beaucoup.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.